La nuit dernière a été relativement calme. Un dock de stockage a toutefois été incendié au centre de Païta. À Conayer, un hélicoptère du SAMU a été caillassé. Le collège de Caméré retrouve une activité presque normale. 80% des locaux sont utilisables, mais pas la cantine. Prendre des mesures d'urgence pour éviter la cessation de paiement. Le gouvernement étudiera demain une délibération pour augmenter les cotisations et baisser les pensions pour la CLR. En métropole, le village des JO placé sous haute sécurité. L'armée de l'air a intercepté deux drones qui tentaient de survoler la zone interdite. Kamala Harris, officiellement candidate à l'investiture démocrate pour remplacer Joe Biden. La vice-présidente américaine semble recueillir l'adhésion des démocrates. Et puis dans la page sport, la poursuite de notre série sur les athlètes calédoniens qui participent aux JO. Vous entendrez ce midi Emma Terebo, la nageuse qui sera alignée sur le 100 mètres et le 200 mètres d'eau. Et puis dès la fin de ce journal, vous retrouverez bien évidemment le magazine citoyen. Gilles Ménage, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Au sommaire cette semaine, le numérique au service de la santé.
Oui, alors que les déplacements sont compliqués sur le territoire, évidemment à cause de la situation insurrectionnelle et que de nombreux cabinets médicaux ont été sinistrés, voire détruits, les médecins pratiquent petit à petit, de plus en plus d'ailleurs, la téléconsultation et la technologie à distance évolue également pour permettre certains actes médicaux et traitements de pathologies comme le diabète. Le numérique au service de la santé, ce sera donc le thème de ce magazine. Nous serons en compagnie de Patricia Tobelmann, responsable d'Allo Santé, et de Monica Roche de CIPAC Healthcare. Ce sera juste après votre journal.
Et pour ouvrir ce journal, faisons donc un point sur la situation dans les communes. La nuit et la matinée ont été relativement calmes dans l'agglomération. Mais il faut toutefois signaler, Isabelle Pelletier, un incendie à Païta.
Oui, c'est le local de stockage d'une boulangerie située au centre du village qui a cette fois été ciblé. Les pompiers sont intervenus rapidement, mais une grande partie du stockage est partie en fumée dans l'incendie. On écoute les précisions d'Antoine Romain, le directeur de cabinet du maire de Païta.
En fin de nuit, vers 4h ce matin, il y a effectivement un incendie qui a été déclenché, donc de source évidemment criminelle, dans un local de stockage de la boulangerie Le Mitron au centre du village. Alors état fort heureusement relativement rapidement par les pompiers qui ont été prévenus par les forces de l'ordre. Mais malheureusement, on constate que malgré ces nuits calmes et ces journées plus calmes, il y a toujours des individus qui ont des intentions criminelles et qui, par petits groupes, peuvent encore commettre des dégâts et faire des dégâts au centre-ville. Il y a toujours des individus qui continuent leur acte de destruction un petit peu systématique, qu'évidemment on regrette.
À Dimbé, à quelques barrages étaient à signaler tôt ce matin au niveau de la rue La Pérouse à Auteuil et au Jacaranda. Ils ont été déblayés un peu plus tard au Mont d'Or. La RP1 à hauteur de la tribu de Saint-Louis reste bloquée jusqu'à nouvel ordre. Toujours au Mont d'Or, on connaît désormais l'origine de la panne EEC survenue hier soir vers 18h. Il s'agit de câbles électriques qui ont été endommagés par des départs de feu à hauteur du pont de la Tille à Saint-Louis. Pour rappel, 1700 clients EEC des quartiers de La Coulée, Saint-Michel, Mont d'Or Sud, Plume et Lembi-Mouirange avaient été plongés dans le noir. Le courant avait été rétabli aux alentours de 18h45. Les clients sont toujours alimentés. À Nouméa, les pompiers ont éteint vers 18h deux foyers d'incendie au plexus de Ducos, un complexe qui, on le rappelle, avait été totalement brûlé lors des deux premiers jours des émeutes. Enfin, hier matin, à Conay, un pilote d'hélicoptère du SAMU, venu chercher un patient pour l'emmener au Medipôle, a reçu des projectiles lancés à la bibiche. Un dépôt de plainte est en cours auprès de la gendarmerie.
Et à son tour, l'UPM, l'Union progressiste en Mélanésie, y réagit à la dégradation du mémorial d'Ataï à la fois et aux incendies de plusieurs églises. Dans un communiqué, elle exprime sa profonde indignation et elle affirme que ces actes de vandalisme sont des attaques inacceptables contre notre histoire, notre patrimoine et nos lieux de culte. L'UPM condamne fermement ces actes de violence et de haine et déclare que les lieux de culte, quels qu'ils soient, doivent être respectés en tant que symbole de spiritualité et de communauté pour de nombreux fidèles. Elle ajoute que la tolérance, le respect mutuel et la coexistence pacifique sont des valeurs fondamentales que nous devons préserver dans notre société diversifiée. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Êtes-vous choqué par la dégradation du mémorial d'Ataï à la fois? Si vous êtes choqué, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier, 91% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS trouvent inquiétant qu'en l'absence de gouvernement de plein exercice en métropole, il n'y ait plus à Paris d'interlocuteur direct pour le dossier calédonien. Ils sont 9% que cette situation n'inquiète pas. Hier, le collège de Caméré a rouvert ses portes après plus de 2 mois de fermeture. L'établissement avait été l'un des premiers touchés par les exactions et la reprise est aménagée car certaines parties du collège restent fermées. Près de 80% des locaux sont maintenant utilisables. Des conditions satisfaisantes pour accueillir les élèves sereinement dans l'attente d'une reconstruction, explique la directrice de l'établissement, Françoise Enduro.
On rouvre à peu près à 80% de notre établissement. La province sud nous a refait énormément de salles et nous pouvons avoir notre infirmerie, la vie scolaire, le bureau du CPE en fonctionnement. On a assez de salles, la sécurité y est, des agents, du personnel et des élèves. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on peut ouvrir sans problème. Mais bien sûr, ça va être reconstruit dans quelques années. Et nous faisons partie d'un plan de réaménagement de l'établissement. Donc le collège de Caméré va revivre entièrement avec toutes ces salles et on espère dans quelques années.
Il reste en effet encore des travaux à prévoir. La cantine a été notamment complètement détruite. Pour l'instant, les élèves apportent leur propre repas. Une solution temporaire, explique Didier Vadatich, le vice-recteur, qui était présent aujourd'hui pour marquer cette réouverture symbolique.
Moi-même, je suis presque ému et très heureux que cet établissement retrouve vie, puisque vous vous souvenez certainement que c'était l'un des premiers à être dégradé, détruit, incendié. On se posait même des questions sur l'avenir de ce collège. Aujourd'hui, il faut souligner l'importance des travaux qui ont été accomplis par la province sud. Bon, il y a le problème fondamental de la restauration de la cantine. Là, il faudra bien trouver des solutions d'appoint, puisqu'on a perdu ce local-là. C'est le point noir, on va dire, en quelque sorte, du collège. Donc, comme la principale l'a dit aujourd'hui, on tolérera que les élèves apportent de quoi se nourrir pendant l'heure du midi et puis ils déjeuneront dans l'enceinte de l'établissement, en attendant progressivement d'autres formes de restauration, des plats qui seront apportés aux élèves dans des espaces rendus libres pour la restauration.
Le collège de Caméré était l'un des derniers établissements du secondaire dans l'agglomération qui était fermé jusqu'à hier. Reste encore le collège de Tuban et le lycée Petro Atiti. Les élèves de Tuban ont pu être relocalisés, mais ce n'est pas le cas de tous les lycéens de Petro Atiti. La situation évoluera au retour des vacances, explique Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement en charge notamment de l'enseignement. Elle était aussi présente à Caméré ce matin.
Progressivement et grâce aux services de la mairie, de la province et du gouvernement, les élèves reviennent dans les écoles. On a encore des points sensibles pour ce qui nous concerne dans le secondaire, qui sont le lycée Petro Atiti, qui a été très abîmé, et puis le collège de Tuban, qu'on souhaite réouvrir après les vacances, les 2 semaines de vacances qui arrivent. Pour Petro Atiti, on a rescolarisé à peu près la moitié des élèves, et sur la deuxième moitié, nous avons la mairie Nouméa qui met à disposition une école dans le quartier de Rivière-Salée, et du coup, on va pouvoir progressivement proposer des emplois du temps aménagés au reste des élèves.
Et c'est à l'école Morissette de Vambay à Rivière-Salée que les derniers lycéens de Petro Atiti seront relocalisés. Il est 11h39, une première pause dans ce journal. Nous évoquerons dans un instant les mesures d'urgence étudiées par le gouvernement pour donner un peu de visibilité à la caisse locale de retraite. À tout de suite.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ce sont des mesures d'urgence, pas des mesures de sauvetage. Constat dressé ce matin sur notre antenne par le membre du gouvernement en charge de la fonction publique. Il était interrogé sur la situation de la caisse locale de retraite, Gilles Ménage.
La situation de la CLR, déjà sous forte tension depuis 2019, avec une trésorerie fragilisée, une dégradation du ratio entre les actifs et les retraités. Un premier train de mesures voté par le Congrès avait permis de redresser le déficit structurel de la caisse, augmentation de 1% des cotisations des actifs, minoration des pensions, taux d'abattement très dissuasif ont eu des effets positifs, mais les événements récents ont plombé les recettes fiscales, explique Veimoa Mouliava.
On est dans cette situation parce que les hôpitaux ne peuvent plus, depuis un certain nombre d'années, payer leurs charges. Et avec le temps, a rejoint le cortège de collectivités ou institutions défaillantes et certaines communes, y compris une province, la province des Îles, l'an dernier. Et vous voyez bien que depuis le 13 mai, avec le massacre du tissu économique, la fiscalité ne rentre plus. Donc ce problème conjoncturel s'étend, se propage et apporte un lot d'impayés qui jusque-là était assez maîtrisable, notamment avec l'aide de l'État. Aujourd'hui, il n'est plus maîtrisable. Quand on sait qu'il faut verser 1,8 milliard de pensions et qu'en caisse de trésorerie, nous avons 2,5 milliards, vous voyez bien que la trésorerie, elle est tendue. Donc, l'acte 2 qui a été adopté par le gouvernement et qui doit encore être adopté par le Congrès le 2 ou le 3 août ne suffira pas.
Cet acte 2 prévoit notamment l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite et une nouvelle majoration des cotisations des actifs et une nouvelle minoration des pensions. Cette dernière mesure a provoqué d'ailleurs un tollé des syndicats qui estiment ne pas avoir à payer pour l'absence de réforme.
Je comprends, mais en l'état actuel des choses, oui, il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, on s'excuse vis-à-vis de nos retraités, mais ce sera 3% ou rien d'ici quelques mois. Et dire que c'est un train de mesure de sauvetage, je mentirais. Je ne fais que repousser le délai à janvier l'année prochaine. Par ailleurs, sur les 12 milliards d'avances sur trésorerie consentis par l'État, 600 ou 700 millions sont réservés au RUAM et à la CLR. Donc on escompte aussi, avec ces trains de mesure que nous allons prendre, bénéficier de 600 millions sur cette enveloppe-là qui nous permettrait une survie vers fin premier trimestre 2025. On en est là.
C'est donc une solution provisoire. Eva Imoamouliava insiste sur la nécessité de réformer l'ensemble du système et pas seulement le RUAM.
Puisque le problème est systémique, il faut avoir la même démarche avec le RUAM. Il faut avoir la même démarche avec les satellites comme Enercal. Il faut avoir la même démarche, ce qu'on appelle une revue budgétaire des collectivités, une revue des dépenses. Et puis associer l'écosystème, c'est-à-dire les partenaires sociaux, les collectivités, etc. Et l'État. Nous avons la chance ici, il faut le dire, d'avoir une mission reconstruction, qui parle d'investissement. Mais je pose la question, si on arrive à débloquer des fonds pour la reconstruction des bâtiments publics, et que parallèlement, nous n'avons pas réfléchi à régler nos problèmes de trésorerie et notamment de finances publiques locales liées à des réformes que nous n'avons jamais faites. Ce serait encore jeter de l'argent par la fenêtre.
Il faut donc réfléchir en amont sur la base des nombreux rapports existants et des avis déjà rendus par les partenaires sociaux, avec évidemment un préalable à la reconstruction, l'arrêt des violences.
Il est temps que les gens là, qui font des exactions, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Les églises, les lieux de culte, les lieux de commémoration sont importants. Mais moi j'ai envie de dire, dès lors qu'on brûle des maisons de particuliers, des gens, des Calédoniens, de souche ou pas de souche, et qui se retrouvent en regardant leur maison en flammes. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête, parce que les problèmes du pays dépasseront tout ça. Parce qu'on va se retrouver dans une révolte sociale sans précédent, sans précédent.
Oui, Imoamouliava qui préside aujourd'hui le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui doit également se prononcer sur cette nouvelle délibération de mesures d'urgence en faveur de la CLR.
Cet entretien est évidemment retrouvé en audio et vidéo sur notre site internet. De son côté, le secteur de l'industrie est fortement impacté depuis le début des exactions. Dès les premiers jours à la mi-mai, tout a été bloqué. Mais la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie a cherché rapidement des solutions pour relancer les marchés, Léo Fichou.
Et oui, en seulement quelques semaines, 30% des commerces du territoire ont été détruits. C'est le bilan qu'a dressé la FINC avant de proposer des solutions aux 200 entreprises adhérentes, des entreprises de toute taille, de tout secteur également, de la métallurgie à l'agroalimentaire, en passant par l'artisanat. Les explications de Xavier Benoît, président de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie.
On regarde quelles sont les capacités de production qui restent en place et qui sont capables de fonctionner. Et est-ce que ces capacités de production, elles permettent de répondre aux besoins du marché? Et puis si, par hasard, les capacités de production ne permettent pas de répondre aux besoins du marché, on regarde si ce sont des secteurs qui sont régulés ou pas. Parce que si ce ne sont pas des secteurs régulés, ça veut dire que n'importe qui peut continuer d'importer, même dans le contexte dans lequel on est. Et si ce sont des secteurs qui sont régulés, bien, effectivement, on regarde quelles sont les options. Et à ce moment-là, on met tout le monde autour de la table et on évalue quelles sont les solutions qui peuvent exister. Est-ce que il faut ouvrir des quotas ou est-ce qu'il faut modifier les règles en matière de stop ?
pour réapprovisionner les magasins et éviter les pénuries. Il a notamment fallu relancer des usines, mais cela n'a pas suffi. Quelques produits ont donc été autorisés à l'importation, le riz, la farine, les pâtes ou encore les boissons gazeuses.
L'idée, ça a été d'essayer de saturer, de commencer à saturer les zones de distribution pour éviter cette impression de pénurie. Et donc là, c'est là que le gouvernement a fait le choix d'autoriser de l'import de riz et de farine essentiellement. Après, la question des boissons gazeuses, elle est différente, puisqu'aujourd'hui, on a deux producteurs de boissons gazeuses, un qui est en mesure de fonctionner et l'autre qui n'est plus en mesure de fonctionner. Et donc, effectivement, le gouvernement a fait le choix de l'autoriser sous condition d'un engagement à reconstruire son outil de production, de pouvoir importer des produits qu'il fabriquait avant. Attention, pour les boissons gazeuses, donc finalement c'est des produits qui sont sous stop, donc ça a été vraiment une dérogation à l'importation. Les autres produits, c'est des produits qui sont sous quota, et donc les importateurs et les distributeurs avaient aussi des quotas, et donc ils ont pu aussi utiliser leurs quotas pour les pâtes aussi. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui était assez ouvert, puisqu'il y avait des quotas disponibles pour les distributeurs et les importateurs, et donc ils ont pu aussi jouer avec leurs quotas.
Si pendant la crise, le gouvernement a réussi à réunir autour de la table l'ensemble des acteurs de l'industrie, l'autorité de la concurrence, les importateurs, les producteurs, mais aussi les distributeurs et la FINC, certains ont tout de même voulu profiter de la crise pour faire de bonnes affaires.
Oui, il y a des gens qui ont voulu effectivement faire du bon beurre sur le lit des Calédoniens et profiter des entreprises au lieu d'essayer de travailler de concert pour que tout le monde arrive à sortir la tête de l'eau. Le pire serait que l'on laisse la place aux profiteurs de guerre, à ceux qui voudraient faire de l'argent sur le dos des Calédoniens. Dans le contexte actuel, c'est complètement inapproprié. Et je remercie tous les importateurs et tous les distributeurs qui ont eu l'intelligence de ne pas s'engager sur ce chemin-là et qui ont pris le chemin des discussions sous la houlette du gouvernement pour éviter des abus inutiles.
Xavier Benoît, président de la FINC, qui réaffirme que l'objectif est simple, permettre aux consommateurs calédoniens de trouver tous les produits dans les rayons des magasins.
Il est à nouveau possible, depuis la fin de la semaine dernière, de recevoir des colis postaux depuis la métropole. Et les envois depuis la Calédonie sont aussi de nouveau possibles. C'est ce que nous a dit Isabelle Blanc-Maté, elle est directrice du postal à l'OPT.
Depuis la France vers la Nouvelle-Calédonie, ça a réouvert là ce week-end. On a eu confirmation de la France de la destination Nouvelle-Calédonie. Donc après, il y a le temps que tout, dans leur organisation aussi interne, hein, que l'information soit diffusée dans tous les bureaux de poste en métropole. Et en termes de flux, on travaille avec les compagnies aériennes. Et là, pour le moment, on n'a plus de problématique de flux sur l'import. Donc ça devrait aussi arriver normalement. On ne devrait pas avoir trop de délais. On n'est pas revenu à des vols commerciaux comme avant, en fait, hein, normaux, et avec des capacités d'emport qui peuvent être aussi priorisées pour le fret, tout ce qui va être sanitaire, par exemple.
La situation de crise déclarée par l'OPT le 14 mai dernier a été levée et les envois sont aussi possibles depuis et vers le reste du monde. Mais certaines destinations peuvent encore être limitées pour des raisons de desserte aérienne. L'Australie devrait rouvrir dès la semaine prochaine. Pour trouver toutes les informations, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée aux colis et courriers sur le site de l'OPT, opt.nc. 11h49, une nouvelle pause. Dans un instant, on parle de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Des rats autour de chez vous? Pensez Formula 4D. N'attendez pas qu'ils évoluent à l'intérieur. On vous propose un traitement adapté pour les éradiquer. Plus d'infos sur formula4d.com.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu.
Derrière nos agents, des clients comme vous, au service de la même exigence. Rendez-vous sur notre nouveau site office.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec l'actualité nationale et internationale, on retrouve Jean-François Baudin.
Emmanuel Macron s'exprimera demain matin pour nous depuis le Trocadéro. Une interview sur France 2 pour parler politique. Ce sera d'ailleurs sa première interview depuis les législatives. Mais aussi pour parler des JO. Le président de la République a d'ailleurs visité le village olympique placé sous haute sécurité. On a d'ailleurs appris que le week-end dernier, l'armée de l'air avait intercepté deux drones qui tentaient de survoler le village. Ils avaient pénétré dans une zone d'interdiction temporaire. Caroline Baudry pour Europe 1.
Avant d'être immédiatement détecté et brouillé par les moyens anti-drones déployés dans la zone, le français Parade et le britannique Orcus, selon les informations d'Europe 1, les engins n'ont pas atteint l'enceinte du village où séjournent les athlètes. Trois personnes ont été interpellées, dont l'un des télépilotes, le responsable de la communication de la délégation sportive brésilienne. Il n'a pas été placé en garde à vue. Le deuxième est en cours d'identification et l'enquête se poursuit pour déterminer leur motivation. Cette ZIT, zone d'interdiction temporaire, protège l'installation dite sensible. Elle s'étend dans un rayon de 1852 mètres, un mille nautique autour du village, sur une hauteur de 244 mètres. Toute aéronef doit être autorisée par les autorités pour y pénétrer. Les autres sites olympiques sont également protégés par ces ZIT.
L'actualité politique et le nouveau Front populaire considèrent toujours que Matignon lui revient de droit, puisqu'il est le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais cela fait maintenant plusieurs semaines que les composantes de gauche discutent et se déchirent pour désigner une personnalité capable de satisfaire toutes les parties. Un temps pressenti, l'économiste Laurence Dubiana a finalement décliné devant la forte opposition de LFI. Trois noms restent évoqués. André Chassaigne, le communiste qui vient d'être élu chef de groupe, l'écologiste Cécile Duflot et le socialiste Benoît Hamon. De son côté, la droite républicaine confirme qu'elle ne fera partie d'aucune coalition. Le chef de groupe LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, l'a rappelé alors qu'il a présenté son fameux pacte législatif, 13 projets qui portent sur la sécurité, l'immigration et le pouvoir d'achat. Même s'il entend garder son indépendance et celle de son groupe, Laurent Wauquiez insiste pour dire qu'il ne participera pas au blocage du pays.
Notre souhait, c'est nous d'être un pôle de stabilité dans un Parlement qui va en avoir besoin. Voilà. Et pas juste de faire des ruptures, des blocages, des affrontements. Et ça n'enlève rien à la clarté et à l'indépendance de nos convictions.
Le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez. Les collectivités françaises sont dans le rouge. La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur l'exercice 2023. Les recettes s'effritent alors que les dépenses augmentent sous l'effet de l'inflation. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Après un excédent de 3 milliards d'euros en 2022, les collectivités affichent un besoin de financement de 5,5 milliards d'euros. Toutes les entités ne sont pas logées à la même enseigne. Les communes s'en sortent plutôt bien. L'augmentation de leurs dépenses a été compensée par des recettes de taxes foncières en forte hausse. C'est plus compliqué pour les régions pénalisées par de faibles rentrées de TVA. Mais ce sont les départements qui souffrent le plus. La crise de l'immobilier les a privés d'une grande partie de leurs recettes liées au volume des transactions. André Léniel est président du comité des finances locales.
La mission principale des départements, c'est la mission sociale. Les aides individuelles de solidarité sont en hausse importante. Donc si vous avez d'un côté une hausse importante du budget social et une baisse des ressources, forcément il y a ce qu'on appelle un effet ciseau qui entraîne des difficultés.
Dans ces conditions, difficile d'imaginer que l'État ponctionne les collectivités pour faire baisser le déficit. Bercy veut prélever 2 milliards d'euros dès cette année, mais les associations d'élus s'y opposent frontalement.
L'actualité à l'étranger et Kamala Harris semble la mieux placée pour être la candidate démocrate dans la course à la Maison-Blanche. Après le renoncement de Joe Biden, sa vice-présidente a officiellement présenté sa candidature et elle a salué l'action du président sortant.
Tout ce qu'a accompli Joe Biden au cours des trois dernières années est sans équivalent dans l'histoire moderne. Oui, vous pouvez applaudir.
En 24 heures, Kamala Harris a récolté 50 millions de dollars pour sa campagne et elle a bénéficié du soutien de ses rivaux qui ont choisi de se ranger derrière sa candidature. La convention démocrate pour désigner le candidat du parti à la présidentielle aura lieu au mois d'août. 11h54, dans un instant, on voit l'actualité sportive. Nous parlerons JO avec la suite de nos portraits des athlètes calédoniens sélectionnés pour ces Olympiades.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Les épreuves des Jeux Olympiques commenceront avant même la cérémonie d'ouverture vendredi, puisque les premiers matchs de qualification du tournoi de rugby à 7 débutent mercredi. Certains athlètes ont donc commencé à rejoindre le village olympique, mais ils ont aussi découvert pour certains le Club France, où ils viendront, ils l'espèrent, fêter leur médaille. Et il y a beaucoup d'attentes, Antoine Bienveau pour Europe 1.
Handballeurs, footballeurs ou encore rugbyman, les athlètes français partagent tous une certaine excitation à quelques jours du début des Jeux. Une impatience d'autant plus grande pour Paulin Riva, capitaine de l'équipe de France de rugby à 7, qui entame les hostilités dès mercredi face aux Américains.
C'est vraiment extraordinaire, ça fait beaucoup d'années qu'on prépare ces Jeux Olympiques. Hein. On sent toute l'organisation qu'il y a autour, toutes les personnes qui sont au service de tous ces athlètes. Hein. C'est vraiment un travail très impressionnant.
Et si Paulin Riva et ses coéquipiers parviennent à décrocher une médaille, ils pourront venir la fêter au Club France où seront célébrés tous les titres des athlètes français avec le public. Une installation qui plaît déjà à Nadim Remili, arrière de l'équipe de France de handball.
On a marché là 200-300 mètres pour arriver au Club France et on a vu à quel point ce club allait être énorme. Donc j'imagine que vous allez bien faire la fête ici, vous tous. Hein. Évidemment qu'on a envie de revenir ici avec la médaille d'or et pouvoir célébrer ça avec tous les supporters qui seront là.
Et en attendant les premières épreuves, les athlètes peuvent compter sur le confort du village olympique pour profiter de leur dernier moment de répit avant la compétition.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux Olympiques avec le CTOS, l'Agence Nationale du Sport et la BNC.
En route pour Paris, pour parler, vous l'avez entendu, de ces Calédoniens qui sont donc sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Après Bassam Awam hier, qui participera aux épreuves de vitesse en escalade, parlons ce midi de la nageuse Emma Terebo. Elle sera alignée sur le 100 mètres et le 200 mètres d'eau. Elle est en pleine préparation.
C'est vrai que on a appris assez tard à peu près un mois des JO que j'ai été qualifiée. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Les entraînements ont repris. C'est dur de se remettre au boulot, mais c'est nécessaire. Et voilà, tout se passe bien. Je pars bientôt en stage à Vichy avec l'équipe de France pour finir en beauté la préparation et ensuite direction le village olympique. J'ai fait mon meilleur temps sur le 100 mètres avec un record de France et puis pas loin de mon meilleur temps sur le 200 mètres d'eau aussi. Donc voilà, c'est des bons temps. J'espère nager encore plus vite au JO, aller en finale et puis après on verra bien.
Emma Terebo est donc focus sur les JO pour sa passion pour le sport et pour réaliser ses performances. Elle a dû mettre ses études entre parenthèses.
J'ai de la chance de pouvoir faire une pause dans ma vie professionnelle, entre guillemets. Oui, je suis nageuse professionnelle, donc je vis de ça. Et c'est grâce à mes sponsors et puis la fédération que je peux en vivre et que j'ai mis pause dans mes études. Donc, j'ai pas de métier à côté, mais voilà, heureusement, parce que ça me prend tout mon temps. Surtout cette année olympique, mais c'est vrai que j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis. J'habite à Paris, donc le week-end j'aime me balader dans la ville et puis faire un peu de shopping, mais j'aime beaucoup aussi regarder des séries et puis écouter de la musique et je suis assez gourmande, donc bien manger c'est aussi important pour moi. Je viens de Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment mon île de cœur et chez moi, mais en même temps j'ai toujours rêvé de voir autre chose, donc c'est vrai que j'ai eu mon diplôme à 18 ans du bac et ensuite j'ai pas tardé pour partir aux États-Unis, faire mes études pendant 4 ans et maintenant je suis depuis 3 ans à Paris pour les Jeux, donc ouais, j'aime bien voir un peu de partout.
À quelques jours maintenant du début des épreuves, notamment celle de natation, Emma Terebo est dans sa bulle et elle a hâte de plonger dans le grand bain de ces Olympiades.
Ah bah c'est l'accomplissement de toute une carrière. Hein. Je pense que c'est pas que pour moi, je pense que c'est pour tous les athlètes de n'importe quel sport. Les JO, c'est le Graal, c'est vraiment... une compétition déjà de fêtes et de célébration du sport, mais aussi de regroupement de tous les pays, de toutes les nations. Donc c'est vraiment extraordinaire.
Les premiers rendez-vous pour Emma Terebo pour ces Jeux Olympiques, ce sera les séries du 100 mètres d'eau. Ce sera disputé mardi prochain, c'est-à-dire dans une semaine tout juste.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux Olympiques avec le CTOS, l'Agence Nationale du Sport et la BNC.